Vous écoutez Libère-toi, le podcast pour apprendre à déléguer, épisode 3. C'est pas toujours facile de choisir la bonne personne à qui déléguer. Il y a certains entrepreneurs qui m'ont confié que des fois, ils avaient peur de se faire avoir, que la personne n'ait pas bien fait le travail. Puis ils m'ont dit qu'à ce moment-là, ils allaient devoir tout recommencer, puis que ça allait avoir l'effet inverse, qu'ils allaient perdre du temps et de l'argent au lieu d'en gagner. Dans cet épisode-ci, je reçois Alain Castonguet de Webcoach. L'une de ses plus grandes forces, c'est justement de savoir bien s'entourer. On va discuter ensemble de comment il s'y prend pour bien choisir ses collaborateurs. Imagine-toi avoir une heure de plus par jour. T'en ferais quoi? Je suis Josiane Morinville et j'anime le podcast Libère-toi pour les entrepreneurs qui veulent plus de temps, plus d'argent. T'as tendance à tout faire par toi-même? Et si déléguer était la clé pour mieux travailler? Ben bonjour Alain, bienvenue sur le podcast Libère-toi.
Bonjour.
Je suis contente que tu aies accepté l'invitation, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Parce que ça fait un petit moment là, qu'on se connaît, puis j'ai toujours trouvé que tu étais un entrepreneur qui savait bien s'entourer. Tu as plein de collaborateurs autour de toi, puis il me semble que ça va bien pour toi. C'est une belle force que tu as, puis c'est pour ça que j'aimerais ça qu'on en parle ensemble aujourd'hui.
Avec plaisir.
Fait que, ben, pour commencer, j'aimerais ça que tu me parles de toi, de ton entreprise.
Ben, en fait, dis très brièvement, ben, d'abord, merci. Hein? Ça me fait plaisir d'être avec toi cet après-midi. Maintenant, moi, comme entrepreneur, plus officiellement, ça fait déjà presque 10 ans que je suis dans cette nouvelle aventure professionnelle. Je suis quelqu'un qui a eu une carrière d'abord dans la fonction publique québécoise, puis jeune retraité, bien, j'ai décidé de faire autre chose et les concours de circonstances de la vie ont bien fait de telle manière que j'ai fait une formation de coach professionnel certifié, là, hein, avec une école de coaching reconnue au Québec. Et puis, immédiatement après, j'ai commencé à faire donc du coaching professionnel auprès de personnes en me disant que ce serait un excellent complément à mon activité de retraite. Et puis, comme je le dis souvent, bien rien de ce que je pensais est arrivé. Alors, bien au contraire, je me suis découvert une passion, probablement que j'avais déjà pour l'entrepreneuriat. Alors, ça fait déjà d'une manière plus formelle 5 ans que je suis un entrepreneur maintenant dans, tu l'auras compris, là, dans des services de coaching professionnel que j'offre principalement en entreprise.
OK, oui, bien dans le fond, c'est ça, tu es en train de me parler de Webcoach.
Bien, indirectement, oui, j'ai commencé comme travailleur autonome, simplement, dans un espace qui était un bureau aménagé chez moi. Et puis, bien, tranquillement, l'espace de bureau s'est transformé, hein, en un espace en milieu institutionnel, parce que mon premier gros contrat, ça a été de faire un parcours de coaching auprès de des jeunes entrepreneurs, des startups, pour une institution scolaire qui était de niveau collégial dans la région de Québec. Fait que je me suis transporté dans un autre bureau et je dirais que c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu une très forte prise de conscience chez moi de d'abord de ma passion pour l'entrepreneuriat, mais surtout de travailler en collégialité avec d'autres pour développer des entrepreneurs. Alors ça a été une belle découverte chez moi, ça. Ça s'est passé quand même rapidement en commençant. Donc, j'ai pas été très longtemps travailleur autonome pour me retrouver dans une équipe de coach à faire du coaching auprès de jeunes entrepreneurs. Alors, ça a évolué quand même rapidement, tu vois, cette posture-là du travailleur autonome vers l'entrepreneur, puis l'équipe par la suite de coach là, qui est arrivée pour ce travail-là que je faisais à ce moment-là, mais ça s'est répercuté là, dans bien d'autres choses par après.
Justement, j'aimerais ça qu'on en parle de ton modèle actuel parce que oui, Webcoach, il y a toi, mais il y a aussi toute une équipe de coachs. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce modèle-là, c'est que dans le fond, tu n'as pas d'employés. Si tu fais affaire avec toutes sortes de travailleurs autonomes, des consultants à l'externe, qu'est-ce qui fait que tu as choisi de procéder comme ça?
Bien, en fait, c'est la posture prise dès le départ de vouloir conserver la liberté qu'offre le travail autonome, tout en étant en équipe, c'est-à-dire avec d'autres. Alors, je me retrouve, dès le départ, puis encore aujourd'hui, dans une organisation du travail où ce sont des travailleurs autonomes qui, entre eux, collaborent pour offrir un service en commun à des personnes, des clients, des entreprises et tout. Alors, chemin faisant, le modèle s'est lui-même développé, tu vois, dans cette idée de collaborer et de coopérer entre travailleurs autonomes pour une prestation de service. Et c'est comme ça que WebCoach est apparu. Puis c'est comme ça aussi que le modèle d'affaires qu'on parle aujourd'hui là, s'est développé. Au départ, je n'avais pas cette idée exacte. Hein? On n'apprend pas ça à l'école, là, ce que j'ai fait. On l'apprend au fur et à mesure qu'on est en relation avec d'autres travailleurs autonomes, qu'on est dans à peu près un même domaine, moi c'est celui du coaching, et qu'on se dit, ben, faudrait bien travailler ensemble pour pouvoir offrir une prestation dans des entreprises et mieux travailler comme coach aussi. Parce que le modèle du travailleur autonome, ça a une limite qui est celle du temps. Quand on est seul, bien, lorsque on a fait tant d'heures de travail dans une journée, le temps s'arrête. Tandis qu'à plusieurs, on multiplie le nombre d'opportunités et de temps. Alors, c'est comme ça, tranquillement, que le modèle s'est monté. Et pour répondre à ta question, je me suis dit par après, pourquoi pas? Pourquoi être dans une dynamique de salariat quand on peut faire autrement? Ce qui fait qu'aujourd'hui, bien, à l'exemple avec toi ou d'autres collaborateurs, le modèle de WebCoach, c'est non pas du salariat, hein? Il n'y a personne qui est embauché dans WebCoach. Nous échangeons des prestations de services ou contre rémunération, bien, il y a des forfaits de travail qui sont appliqués pour réaliser un certain nombre de mandats. Alors, que ce soit en informatique pour la plateforme, que ce soit pour des éléments de contenu pour faire de la rédaction, que ce soit dans le soutien administratif, que ce soit en comptabilité, en fiscalité. Bon, là, tu vois, là, toute la roue de gestion que je suis en train d'expliquer.
Ça compile combien de collaborateurs en ce moment, tout ça?
En ce moment, ça va bien pour WebCoach, pour la plateforme comme telle. Et puis, nous sommes, au moment où l'on se parle, une douzaine de collaborateurs. Alors, j'inclus les coachs, tu vois, à l'intérieur. Il y a actuellement 7 à 8 coachs, c'est selon, qui collaborent donc dans la plateforme qui est WebCoach. Et d'autres personnes, évidemment, qui sont plus attitrés à des fonctions, je dirais, de coordination administrative, de comptabilité. Alors, tu vois, on dit un écosystème, hein, de ressources. Ce sont les mêmes personnes ou à peu près les mêmes personnes. Maintenant, le modèle d'affaires fait qu'ils ne sont pas des salariés, ce sont des collaborateurs.
Puis dans le fond, au début, quand tu as commencé, j'aimerais savoir un peu c'était quoi ta première expérience, c'est quoi les premières tâches que tu as déléguées, puis c'était qui, là, c'est quel type de collaborateur?
En fait, très rapidement, ce qui est apparu, et ça apparaît rapidement, je crois, pour un travailleur autonome, si je recule un peu dans le temps, c'est quand même pas très loin que j'étais, c'est le soutien administratif, les tâches qui sont un peu répétitive, je dois l'avouer, qui demande d'être faite et bien faite pour que le travail que l'on veut faire, qu'on aime, comme dans mon cas, moi, c'était le coaching, doit être fait. Alors, pour rendre ça concret, j'avais besoin de quelqu'un qui s'occupe de l'agenda, qui s'occupe de faire des courriels à des clients, qui s'occupe d'une tâche qui est minimale au niveau de la comptabilité, d'une tâche administrative qui est les renvois de courriel, les systèmes de notification pour les dossiers, pour avoir des dossiers clients qui sont en ordre. Donc, toutes ces tâches que, moi, j'avoue, je n'aime pas faire, alors, je me devais rapidement de trouver quelqu'un qui, pour lui ou pour elle, là, ça devenait son emploi et qu'elle aime faire. Alors, rapidement, la question s'est posée pour moi. Évidemment, tu peux contenir comme travailleur autonome toutes ces tâches-là, sauf que lorsqu'arrive le moment où ça va bien, il faut déjà que tu penses à donner à d'autres. Parce que pour que tu restes dans ta job de travailleur autonome bien, il faut que tu fasses les tâches qui te que tu te passionnes, tous les autres tâches qui t'intéressent moins et qui doivent être faites nécessairement, c'est lié comme tel à la fonction d'entrepreneur, bien, tu les donnes à quelqu'un d'autre. Alors, je les réfléchis simplement comme ça. Et vraiment, la première partie, ça a été le soutien administratif que j'ai délégué très rapidement. Fort heureusement, j'ai trouvé d'excellentes personnes là, qui sont dans ce créneau-là et qui, depuis un bon bout, là, collaborent avec moi.
Parce que justement, je me demandais aussi comment tu fais pour déterminer quand c'est le temps de déléguer telle ou telle chose. Comment tu décides, tu sais, parce que là, oui, ça, c'est ta première expérience, c'était ça, mais je sais que tu délègues aussi beaucoup d'autres choses maintenant.
Oui, effectivement.
Mais ça, j'imagine, ça s'est fait, tu sais, au fur et à mesure. Tu sais, t'as pas fait tout ça d'un coup.
Non.
Fait que je voudrais juste en savoir un peu plus sur ta démarche par rapport
à
ça.
En fait, j'ai, dans ma façon de fonctionner, elle est pas si particulière que cela, mais c'est ma façon à moi de fonctionner. Moi, je m'intéresse d'abord à aller chercher le client. Et lorsque le client arrive, eh bien, il faut lui rendre le service. Et lorsque le client est le moindrement important, bien, le service, il devient encore plus important. Et c'est à ce moment que se présentent les différentes obligations que l'on doit rendre pour le client en question. Dans mon cas, au-delà de la prestation de coaching comme telle, lorsqu'est arrivé le moment où il y avait plus d'un coach pour répondre à la demande du client, ben, lorsqu'on multiplie et que ça dépasse juste le travailleur autonome que j'étais, ça supposait ce moment qu'il fallait que je délègue des bonnes parties de mon travail que je faisais avant, parce que là, justement, il s'ajoute d'autres personnes qui demandent à elles, justement, du calendrier, des agendas, des courriels, ça te fait sourire, n'est-ce pas? Hein? De la gestion de documents, de la mise en ordre des archives, de la sécurité autour des différentes des activités que l'on pose, parce que quand même, on est dans un domaine confidentiel, hein, qui est celui du coaching, où on utilise des applications. Alors, toutes ces tâches, encore une fois, viennent se multiplier. Et c'est à ce moment que la décision se prend nécessairement. Et ce qui s'est passé aussi, qui est fort intéressant dans mon cas, les personnes qui me demandent des services, dans le cas du coaching, souvent aussi me demandent les autres services qui viennent avec l'acte de coaching, qui est de faire les rapports nécessaires pour le suivi des activités, par exemple, à l'intérieur de l'entreprise, pour les programmes que moi, j'offre en entreprise. On dit souvent, c'est un grand mot, là, l'impartition. Alors, le service des ressources humaines de l'entreprise va externaliser, va nous donner à contrat une partie de son travail que nous lui remettons par la suite. Et dans le fond, ça devient du travail pour d'autres personnes chez moi, d'autres travailleurs autonomes qui veulent bien le faire pour nous, je dirais, pour moi d'abord et ensuite pour un client, un donneur d'ouvrage. C'est comme ça que, tranquillement, au fur et à mesure de l'obtention des contrats, que la prestation de travail liée aux personnes qui sont autour de moi, à qui j'ai délégué, augmente. C'est de cette façon-là, simplement. Il y a peut-être aussi le volet recherche et développement, parce que de plus en plus, pour être dans le monde du web, coronavirus oblige, là. Alors, pour être dans le monde du web actuellement, bien évidemment, il faut faire des mises à jour de notre outil technologique. Dans ce cas-ci, moi, c'est WebCoach. Et bien sûr, ça commande que l'on ait des personnes en référencement web, en stratégie marketing sur le web, en programmation au niveau des textes. Donc, il y a une fonction aussi recherche et développement au niveau des technologies que, évidemment, je profite de l'écosystème dans lequel je suis là, avec des bonnes ressources. Je nomme pas d'entreprise, là, mais évidemment, dans notre milieu de vie ici, dans le Bas-Saint-Laurent, d'une manière très surprenante, nous avons toutes les ressources pour faire ce travail-là, qui est un travail plus qu'utile et nécessaire pour le développement, justement, des activités sur le web.
Ben oui, puis je voudrais savoir justement comment tu fais pour les choisir, ces collaborateurs-là? Comment tu fais pour savoir que tu as trouvé là, la bonne personne pour t'aider?
Alors, bien simplement, moi, je suis curieux de nature, puis j'ai un intérêt hein, pour les autres. Alors, je me suis entouré de personnes qui, par référence, m'ont été indiquées et c'est d'une personne à l'autre que la relation s'est établie, tu vois? Alors, d'une personne qui me dit Bon, je vais te faire ce travail. Je lui dis, bon, c'est excellent. Je souhaiterais que dans les prochaines fois, ça soit avec toi que je traite. Qui me répond et qui me dit, tu sais, il dit, pour tel autre type de travail, je connais une très, très bonne personne que tu aurais avantage à connaître. Ah oui? Et là, par la discussion, et j'arrive sur une autre bonne personne. Et c'est comme ça que j'ai tissé, tu vois, c'est quasiment un bouche à oreille. Hein? C'est comme ça que j'ai tissé tranquillement mes relations d'affaires d'une personne à l'autre, parce que il existe des relations entre les travailleurs autonomes aussi et entre les gens qui constituent le monde entrepreneurial, qui sont pas avec pignon sur rue comme on connaît à l'habitude, avec, excuse-moi, là, une pancarte devant la porte. On fonctionne pas comme ça. On est beaucoup plus, comment dire, immatériel. On est sur le web, on est en travailleur autonome, on est souvent chez nous. Puis, notre façon à nous, les travailleurs autonomes ou les petits entrepreneurs, de nous reconnaître, bien, c'est souvent en partageant comme nous le faisons sur le web. C'est comme ça aussi que nous nous apprenons. Il y a cette façon-là, la bouche à oreille. Et l'autre aussi, évidemment, c'est par les réseaux sociaux, particulièrement celui professionnel qu'on appelle LinkedIn, que moi, dans mon certain cas, j'ai trouvé des perles rares et que je suis dans un réseau aussi de partage de connaissances sur des personnes qui ont des bonnes pratiques d'affaires. Et c'est relativement facile de savoir et de reconnaître la crédibilité de des gens, par exemple, par le sérieux qu'ils ont, tout simplement, sur ce qu'ils font sur le web.
As-tu des critères particuliers, des choses que tu... des questions que tu poses à la personne dans une première rencontre ou des trucs en particulier, tu sais, qui...
Bien, en fait, bien simplement, les questions portent autour de « voilà mon besoin et comment tu peux y répondre à mon besoin » et ça se mesure dans la réponse de la personne sur « est-ce qu'elle peut répondre à 100% pour le besoin que je lui évoque, qui doit être rempli ». Je dirais que par nature, je suis quelqu'un de relativement exigeant pour moi, donc je demande la même exigence aux autres personnes. Alors ça se traduit assez vite, là. Quand j'ai des entretiens, tu vois, avec soit des coachs ou avec d'autres personnes. Donc, tout ce qui est lié aux besoins, c'est très, très important. L'autre élément, bien, c'est la disponibilité. Dans la façon dont on fonctionne à l'intérieur de WebCoach, il faut être agile. Agile, ça veut dire des disponibilités de calendrier, une souplesse dans la réponse, il faut que ce soit quand même relativement rapide, une agilité aussi, tu vois, être capable de s'adapter rapidement selon le client, parce qu'évidemment, ça arrive qu'on passe d'un client à l'autre. On n'est jamais avec la même personne tout le temps. Alors, ces différents critères viennent établir le profil donc de personnes. Bien évidemment, en coaching, il y en a un de base là que moi, je pratique tout le temps, qui est celui de l'accréditation avec la norme qui est celle de la Fédération internationale des coachs. Alors, pour être dans WebCoach et travailler avec moi, il y a une norme qui est la norme ICF, qui est une norme internationale. Ça suppose à ce moment des personnes qui ont une formation, une accréditation, qui sont en supervision avec un autre coach, qui suivent leur formation sur une base régulière et qui ont une prestation, c'est-à-dire qu'ils interviennent sur une base régulière, ils font du coaching, en d'autres mots, comme étant leur profession ou leur métier. Alors, tous ces critères-là, bien, ça c'est, je ne les dis pas, mais ça fait partie d'eux lorsqu'il y a l'entrevue avec d'autres coachs, par exemple, pour le cas d'une prestation de coaching dans une entreprise.
Mais si on parle plus, mettons du côté administratif, ceux qui sont en comptabilité ou justement, tu sais, en rédaction web ou des choses comme ça, t'sais, eux, as-tu d'autres points, d'autres conseils?
Je crois beaucoup que même si nous ne sommes pas reliés par une fonction de salariat, là, où je te paye un salaire, là, puis que tu es mon salarié, je crois à la notion de fidélité puis de loyauté de part et d'autre. Alors, évidemment, dans ce que j'ai mis en place, pour les ressources qui sont autour de moi, mon premier réflexe lorsque j'ai un besoin, c'est d'aller toujours vers les mêmes ressources. Moi, je ne pratiquerai pas le moins cher là, ou le plus cher. Je fonctionne pas comme ça. Je fonctionne vraiment à créer autour de moi un réseau, une équipe. Puis une équipe, bien, ça se bâtit par de la récurrence. Alors, quand il arrive des nouveaux mandats, bien, c'est toujours vers les mêmes personnes que je vais. Puis les personnes me répondent, bien ça, Alain, je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas, c'est pas dans ma pratique. Par contre, je peux te référer à telle autre personne. Ah, et voilà, là, on passe à une autre personne qui m'est référée par une personne avec qui j'ai l'habitude de travailler. C'est comme ça que je bâtis. Et ça, c'est plus sur moi puis mes croyances comme entrepreneur. La fidélité, la fiabilité, la crédibilité, c'est très important pour moi, pour d'abord pour Webcoach, mais aussi pour les gens avec qui je travaille. Je crois aussi que plus on développe une relation avec quelqu'un, plus on devient aussi efficace, puis on devient optimal. Et on n'a pas à redécouvrir à chaque fois quelqu'un à s'expliquer à un moment, quand ça fait plusieurs mandats qu'on fait ensemble, on va directement dans le mandat et puis on est immédiatement dans l'action. Tu vois? J'en dis beaucoup, mais en même temps, ça parle de la notion d'équipe, créer une équipe.
Ça, c'est intéressant pour ça, parce que justement, vu que tu travailles avec beaucoup de collaborateurs en même temps, comment tu fais pour avoir le suivi du travail qui se fait, t'assurer que tout se fait au bon moment, puis d'avoir comme une vision globale de tout ça?
À un moment, comme entrepreneur, on agit comme chef d'orchestre et puis on réussit à parler à tous nos collaborateurs en temps réel pour que se réalisent les mandats. Puis, il arrive un moment que ça ne fonctionne plus et que là, dans l'art de déléguer, il faut penser à prendre des parties de ce que nous sommes puis les donner à quelqu'un d'autre et faire confiance à l'autre pour lui dire « Je te passe la baguette, à ton tour de jouer le chef d'orchestre. » Parce que moi, je dois faire autre chose pour le bien de l'entreprise. Et ça, c'est difficile. Moi, personnellement, je l'ai trouvé difficile ce moment-là. Je dirais même qu'encore au moment où l'on se parle, je suis dans ce moment-là où je fais suffisamment confiance à d'autres personnes pour leur passer la baguette puis qu'eux fassent jouer l'orchestre pour que moi, je puisse faire autre chose. Par exemple, du développement d'affaires. Alors, c'est très important que je m'y consacre parce que Webcoach est très identifié à moi pendant que d'autres font d'autres travails. Par exemple, on a une nouvelle directrice générale dans Webcoach. Ça m'a pris un bout de temps là pour l'accepter. Mais maintenant, il y a de plus en plus de tâches que c'est la directrice générale qui les fait. Puis, je m'en détache. M'en détacher, ça veut dire l'entière responsabilité à d'autres personnes de réaliser un certain nombre de tâches et d'actions dans Webcoach sans que je me soucie de savoir si ça a été fait ou non, ou bien fait ou non. Alors, ça, c'est une étape qui est difficile et c'est comme ça, c'est la seule façon, en fait, je crois, là, pour celles que je connaisse, de bien le faire. Il faut accepter un moment de prendre des morceaux que l'on fait bien, que je fais ça quand même bien, comme dans ce cas-ci, c'est la coordination des différentes activités, que je le prenne et que je le donne à quelqu'un d'autre qui le fait mieux que moi, là, parce que moi, je fais autre chose aussi. Ça, c'est le moment où je suis encore là, présentement comme entrepreneur. Et je dirais à un travailleur autonome aujourd'hui, lorsque ça va t'arriver, ton activité va être suffisamment importante pour que ça te dépasse comme personne, pas dépasser au sens de ne plus savoir quoi faire, mais d'avoir trop de travail et que là, il faut prendre d'autres personnes, c'est une bonne chose. Maintenant, prépare-toi à l'idée que tu vas devoir en laisser aux autres et ne pas tout faire toi-même. Et ça, c'est vraiment un enjeu en entrepreneuriat, d'accepter que, ça, je le faisais bien, mais je ne peux plus le faire. Je dois faire autre chose. Parce que ça va bien. C'est un peu contradictoire, là, mais c'est comme ça.
Mais justement, des fois, il y a des entrepreneurs qui m'ont dit qu'ils hésitaient à, justement, déléguer des choses parce que là, ils disaient d'un coup que finalement, la personne avec qui je collabore, elle ne peut plus travailler avec moi. Qu'est-ce que je vais faire si j'ai donné un gros morceau à cette personne-là puis que finalement, elle ne peut plus être là? Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de perdre...
Malheureusement, oui. Puis dans des circonstances troublantes de personnes qui étaient avec moi, que j'appréciais beaucoup, puis que du jour au lendemain, par exemple, décident d'aller vers un autre emploi, puis que c'était beaucoup mieux pour eux, et tant mieux pour eux, parce que c'est eux qui continuaient à avancer vers les objectifs de vie qu'elles s'étaient donnés. Puis c'est tant mieux. Maintenant, moi, ça faisait un énorme trou, tu vois, qu'il fallait à ce moment remplir à nouveau en trouvant d'autres personnes. Il y a une prise de risque hein, à travailler ensemble. On ne peut pas s'assurer que, évidemment, les personnes vont être avec nous tout le temps. Ça arrive que d'autres vont vers dans d'autres directions. Et c'est tout à fait correct aussi. Puis ça fait partie de la prise de risque en entrepreneuriat. Et il faut accepter aussi que ça va changer, qu'il y aura d'autres personnes qui vont rentrer et sortir. Et la peur qui pourrait être, tu dis le mot peur, qui pourrait y être associée, moi, je l'associe au risque que ça arrive ou pas. Puis, en entrepreneuriat, le risque, c'est ce qui fait foi de tout. Et ça parle aussi de est-ce que je suis un entrepreneur? Si j'ai peur constamment, puis que je suis paralysé par ma peur, alors il faut que je me questionne sérieusement si je suis si je suis à la bonne place en entrepreneuriat, parce que en entrepreneuriat, la prise de risque, elle est constante. Elle est presque tout le temps présente. Il n'y a pas souvent de zone confortable, sauf quand on se félicite d'un beau contrat puis qu'on est content puis qu'on sait que ça va bien aller. Le lendemain, on reprend des risques encore parce qu'on recommence à nouveau, puis on le fait constamment avec les personnes avec qui on travaille. Je dirais que ce qui nous garantit d'une certaine façon qu'on reste tricoté, serré entre nous, c'est la responsabilité qu'on partage en entrepreneuriat. On est des gens qui sont tricotés d'une certaine façon, qui s'apprécient pour ce que l'on est. Non pas qu'on est à part des autres, mais certainement que parce que l'on prend des risques souvent, bien, on respecte ça chez l'autre. Alors, ça nous tricote hein, entre nous, les entrepreneurs. Là. Et bien, pour cette raison-là, ça va arriver que des gens vont nous quitter des fois. Mais il n'y aura pas de reproche qu'on va leur faire parce qu'ils vont aller prendre d'autres risques ailleurs encore plus importants parce qu'ils veulent continuer à grandir, c'est fort probablement.
Mais toi, quand ça t'est arrivé, qu'est-ce que tu as fait comme solution? Comment tu as pu pallier un peu à ça?
À chaque fois que j'ai eu des questions où je devais y répondre et que je n'avais pas de réponse immédiate, mon premier réflexe, c'était de me tourner vers d'autres personnes, d'autres bonnes personnes, que je considérais leur avis important et qui probablement avaient plus d'expérience que moi puis qui m'ont aidé à trouver mes propres solutions. Alors là, je parle d'avoir un coach. Moi, je suis un coach, là, puis j'ai constamment avec moi mon coach. Puis à chaque fois que j'ai une question qui perdure puis que je n'ai pas de réponse, parce que je n'en ai pas de réponse souvent, bien, je me tourne vers mon coach qui, lui, dans certains domaines, a beaucoup plus d'expérience que moi et qui m'aide à réfléchir. Puis des fois, il me donne des bons conseils aussi. Alors moi, je souhaite ça à tous les entrepreneurs, du plus petit au plus grand, que lorsqu'on se pose des questions qui sont sans réponse puis qui concernent l'avenir de notre entreprise, notre développement à nous, bien, de se tourner vers les autres, d'aller vers d'autres personnes qui vont être, bien sûr, de bons conseils. Là. C'est important. Qui nous aide à réfléchir. Il y a une magie dans le fait de dire « J'ai besoin de ton conseil, je veux que tu m'écoutes, j'ai telle situation, telle situation, telle situation, et puis j'aimerais avoir ton avis. » Ça, c'est précieux, là, quand on a ça. Moi, j'ai eu ça. Je suis vraiment chanceux. J'ai un environnement immédiat de proximité de bonnes personnes qui m'aident dans ma réflexion, qui me font grandir aussi à travers mes décisions hein, que je prends pour l'entreprise. Puis à date, ça ne se passe pas si mal. Alors, ça serait mon conseil du jour, Josiane. Tourne-toi vers les autres. Il y a de réfléchir soi-même, c'est important, mais il y a aussi de se tourner vers les autres pour aller chercher de la bonne information.
Puis pour toi, dans le fond, délégué, c'est quoi ça t'a apporté? C'est quoi le plus gros avantage que ça a eu pour toi, mais aussi pour ton entreprise?
En fait, dans ma connaissance que j'en ai au moment d'aujourd'hui, le fait de déléguer, ça a eu comme conséquence directe de créer autour de moi une équipe avec une gouvernance qui s'est installée. Et donc, maintenant, par réflexe, même si je suis quelqu'un d'assez rebelle puis qui veut prendre ses décisions par lui-même, je me tourne vers ceux qui sont proches de moi pour chercher le conseil, chercher le, pas nécessairement l'approbation, mais bien les éclairages supplémentaires pour une bonne prise de décision. Quand on délègue et qu'on a les bonnes personnes avec nous dans cet acte de délégation, ça devient des collaborateurs, ça devient des partenaires, ça devient des personnes de bons conseils pour nous. C'est ce que ça, aujourd'hui, là, c'est ce que je conseille aux gens qui sont en entrepreneuriat, d'aller vers les autres pour justement que ta propre gouverne à toi s'améliore. Il ne peut y avoir en entrepreneuriat, là, je vais pousser une affirmation un peu forte, là, il ne peut y avoir en entrepreneuriat aujourd'hui d'entreprise où l'on est complètement seul. Il faut être avec les autres pratiquement tout le temps. Oui, pour la prestation au niveau du client, mais pour tous les autres gestes qui sont nécessaires pour qu'une entreprise aille bien. Avec l'expérience aujourd'hui, je sais que le monde est tellement complexe. Juste démarrer une entreprise aujourd'hui, c'est d'une complexité presque sans fin, là, avec le nombre d'intervenants, les formulaires, les différentes possibilités et tout. Ça prend du conseil pour justement bien passer, hein, faire son chemin. Et donc, nécessairement, les autres sont là, sont présents. Alors, accepter qu'on est en relation constante avec les autres, jusque dans l'acte de déléguer, c'est fondamental dans la réussite en entrepreneuriat pour moi. Oui, ça va jusque-là, là.
Parce que tu devances un petit peu ma dernière question, en fait. Parce que je me disais, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui veut déléguer, mais qui hésite encore à le faire?
Qu'est-ce que je lui dirais? De réfléchir, certainement, en prenant, par exemple, une feuille de papier et un crayon, puis en tirant un trait en plein milieu, puis lui demander d'un côté d'aller écrire sur cette même feuille tout ce qu'il doit faire, qui est, dans le fond, une to-do de tout ce qu'il fait, et de cette to-do, maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce que je pourrais donner à l'autre qui, moi, me libérerait pour permettre de mieux faire ce que j'ai à faire? Et c'est surprenant comme exercice. On se rend compte tout à coup qu'il y a beaucoup de gestes, de tâches que l'on fait, qu'on devrait faire plutôt que faire. Dernier conseil, ça se termine par une question, c'est qu'est-ce que je pourrais bien faire pour moi mieux faire ce que j'ai à faire. Et l'acte de délégation est là-dedans. On ne peut pas tout faire, à moins d'être quelqu'un que je ne connais pas, là, qui réussit à tout faire très bien dans son entreprise seul, tout en étant en croissance, tout en ayant plus de clients, dans un monde de plus en plus complexe. Hein? Aujourd'hui, on le vit très, très bien. C'est pratiquement impossible. Alors, la feuille blanche, séparée en deux, la to-do, puis de voir tout ce qu'on peut faire par les autres.
Bien, ça conclut notre entrevue. Encore une fois, là, je te remercie là, beaucoup là, de ton ouverture puis de tous les bons conseils que tu as donnés à travers l'épisode. C'est super apprécié.
Ça me fait plaisir.
Bye-bye. Au plaisir. J'espère que vous avez aimé l'entrevue et puis que ça vous a inspiré à déléguer davantage. Si vous voulez suivre Alain Castonguay, j'ai mis tous les liens vers ses réseaux sociaux et son site Internet dans les notes de l'épisode. Dans le prochain épisode, on va parler de gestion du temps. J'aimerais vous présenter la matrice d'Eisenhower qui permet d'établir les priorités. Dans cette matrice-là, les tâches sont divisées en quatre blocs suivant deux axes. L'un détermine l'importance d'une activité, l'autre, son urgence. D'ici là, je t'invite à t'abonner au podcast pour être sûr de ne pas manquer les prochains épisodes. Sur ce, on se reparle à l'épisode 4. À bientôt!